France Info.
Bonjour à tous, merci d'être avec nous ce matin sur France Info. Notre invité Gabriel Attal, bonjour.
Bonjour.
Secrétaire d'État chargé de la jeunesse. Bonjour Jean-Jérôme Bertolus.
Bonjour Jérôme.
Emmanuel Macron s'est exprimé hier soir sur la télévision publique italienne.
La RAI, effectivement, et ce soir, en tout cas, du moins en ligne, et demain dans la presse quotidienne régionale française et dans l'ensemble de la presse européenne, il publie une tribune. Alors, est-ce que c'est bien le rôle du président de la République de faire la campagne des européennes pour la majorité? C'est le président de tous les Français?
C'est le rôle du président de la République de proposer aujourd'hui une orientation pour l'Europe. À un moment, on voit bien qu'on est dans une transition où il y a des risques très forts pour l'avenir de l'Europe, avec la montée des nationalistes, avec le Brexit, dont on ne sait pas trop où est-ce qu'il va s'arrêter, avec des enjeux climatiques, des enjeux sur la taxation des géants du numérique, avec des enjeux pour une Europe sociale. Il y a besoin d'un leadership en Europe, et depuis 2 ans, c'est Emmanuel Macron qui l'incarne. Et aujourd'hui, il va proposer une nouvelle impulsion pour le continent européen, dans la lignée de son discours de la Sorbonne, qui avait eu un écho très fort partout en Europe, parce que partout en Europe, dans tous les pays européens, des peuples européens sont en attente d'un leadership en Europe et d'une orientation politique
pour
l'Europe.
Donc Emmanuel Macron est le leader aujourd'hui de l'Europe. Et il le réaffirme à travers cette tribune européenne.
Il propose une impulsion pour l'Europe,
c'est ce que
il propose
vous
un cap pour l'Europe, c'est ce que je dis. Il propose un cap et une impulsion pour l'Europe, un leadership politique. Évidemment, d'autres responsables politiques en Europe sont aussi dans cette ligne-là. Et d'ailleurs, je pense que la campagne des élections européennes permettra de montrer que partout en Europe, des personnes se mobilisent, des personnalités politiques, des partis politiques se mobilisent pour incarner cette orientation
et
politique.
Aujourd'hui, c'est vrai que les citoyens français comme les citoyens européens se détachent de l'Europe, qu'ils trouvent trop technocratique, qu'ils trouvent impuissante. Par exemple, demain, le gouvernement français va proposer un projet de loi de taxation des GAFA. La France est seule. Ça montre que l'Europe est impuissante aujourd'hui.
Ce qui est certain, c'est qu'on a eu, dans un premier temps dans l'histoire, l'Europe des fondateurs. Et ensuite, il y a eu l'Europe des gestionnaires, effectivement, avec une vision technocratique. Et que dans ce cadre-là, qui est celui de l'Europe telle qu'on l'a trouvée avec Emmanuel Macron quand on a été élu, c'est un combat permanent que de faire progresser des projets politiques. Et on a réussi sur un certain nombre de points. Emmanuel Macron a réussi à avoir un accord sur les travailleurs détachés. Il a réussi à avoir un accord sur les droits voisins. Il a réussi à arracher l'interdiction du glyphosate dans 5 ans au lieu des 15 qui étaient prévus. Mais on ne peut pas avancer sur tous les sujets. La taxation des géants du numérique, c'était un projet porté par la France. On n'a pas réussi à obtenir un accord européen, donc on prend nos responsabilités. Mais les élections européennes, la nouvelle donne politique en Europe qui aura dans les prochains mois, permettra sans doute une clarification et surtout d'avancer résolument sur des projets politiques.
Gabriel Attal, sur la question des migrants, Emmanuel Macron hier soir, dans cette interview à la RAI, reconnaît que l'Italie a été laissée un peu seule par le reste des pays de l'Union européenne. Mais il n'y a pas de proposition nouvelle.
Bien sûr que si, il y a des propositions. Et je pense qu'elles seront réaffirmées dans les jours ou dans les semaines qui viennent. Mais il a proposé une agence européenne pour l'asile, avec une répartition, une clé de répartition des réfugiés qui arrivent sur le continent européen.
Ça, il l'avait déjà proposé.
Oui, il l'avait déjà proposé. On va continuer à porter cette idée-là. On voit bien que c'est ça l'enjeu. Quand il dit que l'Italie a été laissée seule, c'est vrai que les arrivées se sont faites massivement en Italie et que l'Europe ne dispose pas aujourd'hui d'un système organisé, institutionnel, de répartition des réfugiés sur le continent européen. Donc, qu'est-ce qu'on fait depuis maintenant plusieurs mois quand des réfugiés arrivent sur les côtes européennes?
On ferme nos ports aux bateaux humanitaires qui sont en mer Méditerranée.
On met en place un système improvisé, entre guillemets, avec une coalition d'États, Malte, l'Espagne, d'autres États, je crois que 6 ou 7 États, où on répartit les réfugiés comme ça. Mais il faut avoir un système institutionnalisé en Europe. C'est la seule manière pour que ça soit soutenable et tenable. Et c'est ce que nous proposons.
Alors on a bien compris qu'en fait Emmanuel Macron va être la véritable tête de liste de La République En Marche pour les Européennes. Mais enfin, il faut quand même techniquement une tête de liste. Vous penchez plutôt pour qui? Pour Agnès Buzyn ou Nathalie Loiseau? Écoutez Jacqueline Gourault, votre collègue ministre de la Cohésion des Territoires. Elle était hier sur France Info. On l'écoute.
C'est une femme qui, comme vous le savez, est médecin. Et elle a cette qualité d'écoute, cette qualité d'empathie, qui est très importante. Et en même temps, c'est une femme qui a du tempérament, qui est une femme qui sait prendre des décisions.
Alors Jacqueline Gourault, elle évoque bien sûr Agnès Buzyn, mais est-ce que la première des qualités de la tête de liste de La République En Marche pour les Européennes, ça n'est pas de bien connaître l'Europe?
La première qualité de la tête de liste pour les élections européennes, ça sera d'être en capacité de porter notre projet politique pour l'Europe. C'est ça de ce dont on a besoin. On a besoin d'une tête de liste.
Mais vous penchez pour qui ?
Mais moi, aujourd'hui, je ne vais pas donner un nom ou me positionner sur des noms dont on ne sait même pas si c'est des personnes qui sont candidates. Je comprends qu'il y a une vraie attente et que beaucoup de journalistes, de commentateurs politiques, peut-être beaucoup de Français, attendent de savoir qui sera notre tête de liste. Il faut attendre encore quelques jours ou quelques semaines au maximum.
Jusqu'à quand ?
Avant
Jusqu'à
d'avoir
quand
la réponse. Bah, je crois que d'ici la fin du mois, on devrait y voir plus clair. Mais vous savez, on a notre calendrier. Pourquoi est-ce qu'on aurait une pression absolue à aujourd'hui donner une tête de liste, une liste ? Pourquoi ? Parce que les autres partis l'ont fait. Mais les autres partis, c'est normal, ils se focalisent sur ce scrutin depuis des années. Parce que c'est aussi un moyen de permettre à des gens d'être élus, parce qu'ils n'ont pas réussi à être élus au niveau national.
La participation, généralement, à ces élections est assez faible. Les enjeux européens sont peu débattus. On peut le regretter en France. Est-ce qu'il ne fallait pas partir plus tôt pour essayer d'intéresser plus de Français ?
Mais vous savez, on est parti très tôt en organisant une grande marche pour l'Europe, en allant frapper à des dizaines, des centaines de milliers de portes pour parler d'Europe, pour faire remonter des propositions. Aujourd'hui, on est dans la synthétisation de ces propositions. On va rendre public notre programme dans les semaines qui viennent.
Donc c'est un processus qui a commencé.
Finalement très tôt. Moi, je pense que les Français, ils attendent de savoir quel cap politique on porte en Europe avant de savoir les noms qui sont présents sur la liste. Ça viendra assez vite. Il faut attendre maintenant quelques jours ou quelques semaines.
Mais ça veut dire que si c'est Agnès Buzyn qui porte un projet de loi important, la loi santé, ou si c'est Nathalie Loiseau, la ministre des Affaires européennes, qui veille sur le Brexit comme le lait sur le feu, elles vont devoir abandonner leurs responsabilités ministérielles, là, comme ça, en cours de route.
Enfin, on verra.
Oui, non, mais
on verra
l'une
si
ou
c'est l'une ou l'autre. Moi, je ne peux pas aujourd'hui vous confirmer que ce sera.
Cette assertion.
Non, mais je ne peux pas vous
confirmer que ce sera l'une ou l'autre. Tête de liste, elle abandonne son poste de ministre.
Mais c'est pas moi qui fixe les règles. Évidemment, a priori, si un ministre ou une ministre est
tête
sur
de
la liste,
on n'est pas ministre.
Ou sur la liste des élections européennes, il me semble assez logique qu'il y ait un changement au niveau.
Et donc un remaniement avant les européennes.
Mais moi, je n'ai pas d'informations sur ce sujet.
Non, mais toujours dans la logique.
Ça découle de ce que vous.
Mais je n'ai pas d'informations plus précises que celle-là, donc on verra. Je comprends qu'il y ait une attente, mais encore une fois, l'attente ne sera plus très longue.
D'autres questions pour vous, Gabriel Attal, secrétaire d'État chargé de la jeunesse, juste après l'info. Il est 9h20, Thomas Bénèche.
Nouveau dégât la nuit dernière à Grenoble, quartier Mistral. Une dizaine de voitures, deux engins de chantier, des locaux de la ville ont été incendiés. Conséquence de la mort de deux adolescents dans la nuit de samedi à dimanche. Ils roulaient sur un scooter volé et étaient poursuivis par une voiture de la BAC, la brigade anticriminalité. La fermeture de Fort Blanquefort est un séisme territorial bien plus large que la commune. Réaction sur France Info de la maire de la ville girondine, Véronique Ferreira. La direction du travail doit s'exprimer aujourd'hui sur le plan de sauvegarde de l'emploi proposé par le constructeur à ses salariés. 850 personnes concernées. Emmanuel Macron reconnaît des erreurs passées, source aujourd'hui de la crise des Gilets jaunes. Le chef de l'État l'a dit hier soir alors qu'il était invité sur la chaîne de télé italienne Rai Uno. 44 départements d'une moitié nord de la France en vigilance orange au vent violent. L'épisode météo doit durer jusqu'à ce soir. La plus forte rafale mesurée l'a été à Belle-Île, 151 km/h.
France Info. Gabriel Attal, secrétaire d'État chargé de la jeunesse, notre invité ce matin sur France Info, Jean-Jérôme Bertolus. On parle de la situation en Algérie. Le président Bouteflika a fait déposer sa candidature hier à un cinquième mandat.
Depuis Genève, hein, où il était hospitalisé, vous êtes secrétaire d'État à la jeunesse, vous avez 29 ans, 30 ans dans quelques jours, comme 50% de la population algérienne. Est-ce que vous comprenez le désespoir de ces jeunes qui sont dans les rues, que ce soit en Algérie ou à Marseille ou à Paris hier ?
Alors, l'Algérie, c'est un peuple souverain. Il y a en ce moment des questions qui se posent sur la suite, sur l'élection présidentielle qui arrivera dans quelques mois. L'Algérie est en train de se saisir de son destin et de choisir son destin. Et en tant que ministre d'un gouvernement français, j'ai pas à donner mon
quand
avis
même, quand
de
même.
Conseil
vous pouvez avoir
à me
un sentiment à la fois en tant que ministre, en tant que citoyen, en tant que jeune, parce que se référer seulement à la souveraineté de l'Algérie, comme l'ont fait tous vos collègues hier dans les émissions politiques, c'est en fait dire aux autorités algériennes, eh bien c'est à vous de maîtriser cette ébullition.
Non, vous savez, moi je discute beaucoup avec des Algériens, y compris des amis qui sont algériens, et ils n'attendent pas, eux, qu'on leur donne des leçons, qu'on leur dise quoi faire. Vous savez, l'Algérie, c'est un c'est un pays indépendant, c'est un pays souverain. Donc moi, je suis aussi, je fais très attention aussi, parce qu'il ne faut pas donner le sentiment qu'on est là à leur donner des conseils, à leur donner des directives sur ce qu'ils doivent faire. C'est un peuple souverain qui est en train de prendre son destin en main à l'occasion de ces élections. Évidemment, si vous me posez la question de savoir si je suis sensible à la mobilisation de jeunes, je le suis toujours par définition. Et précisément quand la question du renouvellement en politique est posée. Moi, je me suis engagé avec Emmanuel Macron derrière cette idée-là du renouvellement en politique.
Comment vous expliquez que beaucoup de responsables politiques, et d'ailleurs le chef de l'État l'a fait, se sont exprimés sur la crise au Venezuela, et très peu sur l'Algérie? Le Venezuela, c'est à plusieurs milliers de kilomètres. L'Algérie, c'est de l'autre côté de la Méditerranée, et plusieurs centaines de milliers d'Algériens vivent en France.
Je crois qu'avant de s'exprimer sur la situation au Venezuela, on a laissé passer un certain temps pour voir où la situation allait. Et dans quelle mesure est-ce que le pays était bloqué et ne pouvait plus avancer à cause d'un blocage institutionnel. Là, on voit que chaque jour, il se passe des choses en Algérie. Donc évidemment, on est très attentif.
Ça ne traduit pas une gêne.
Non, je ne crois pas. On est attentif à la situation en Algérie. Ça a été rappelé par mes collègues ministres qui sont en charge de la diplomatie, des affaires étrangères. Et évidemment, tout ça est suivi de très près.
Une gêne, comme le dit effectivement Jérôme, ou une peur simplement que la situation ne soit plus maîtrisée en Algérie par le gouvernement actuel, ce qui pourrait créer un afflux de binationaux. Et ils sont nombreux, les binationaux franco-algériens qui résident encore en Algérie.
Encore une fois, moi, je crois qu'on regarde la situation évidemment de près, ce qui ne veut pas dire qu'on a à donner des directives au peuple algérien, à envoyer des oukas, des anathèmes sur une situation qui, encore une fois, doit être gérée.
On peut parler d'une situation où un président hospitalisé en Suisse qui ne peut pas s'exprimer, qui ne peut pas parler à son peuple, se représente.
C'est la situation actuelle.
Visiblement, même ça, c'est difficile.
On voit bien qu'il y a des évolutions qui sont en cours. Chaque jour, il y a des évolutions importantes. Donc, on suit ça de très près.
On a bien compris quand même que vous êtes pour le renouvellement en politique en France, retour en France. Les jeunes ne s'intéressent pas vraiment à la politique, en tout cas pas au grand débat national. Comment vous l'expliquez? C'est les thèmes, comme par exemple la fiscalité, finalement, qui ne concernent pas les jeunes?
Moi, je dirais pas que les jeunes s'intéressent pas à la politique.
Ils sont pas présents dans les grands débats.
Je dirais pas qu'ils s'intéressent pas à la politique. Peut-être qu'ils s'intéressent moins à la politique politicienne, entre guillemets, et que on a aujourd'hui une mutation avec une jeunesse qui s'engage pour des causes. La cause environnementale, la cause de la bien-traitance animale, des enjeux qui sont très fortement portés par les jeunes. On pourra peut-être y revenir. Sur la question du grand débat. Moi, dès que le grand débat a été lancé, je me suis dit, s'il n'y a pas une mobilisation particulière, les jeunes ne s'y exprimeront pas. Pas parce que les sujets ne les intéressent pas, mais parce que le cadre qui a été fixé pour tout le monde n'est pas forcément le cadre le plus adapté pour que les jeunes s'expriment. Quand vous êtes jeune, allez dans une réunion publique où vous avez des personnes qui ont toute une expérience, tout un vécu et qui parfois s'appuient sur cette expérience, ce vécu pour faire des propositions, bah ça peut être un peu intimidant parce que on n'est pas certain d'être considéré comme légitime pour s'exprimer. Donc, j'ai mobilisé très rapidement des réseaux associatifs pour qu'ils organisent des réunions spécifiquement dédiées aux jeunes. Et ça marche. Ça marche. Les MJC, les jeunes chambres économiques, le collectif AnimaFac, les maisons des lycéens et d'autres réseaux associatifs ont organisé des réunions partout sur le territoire, tous les jours. Il y a des réunions du grand débat qui sont dédiées aux jeunes. J'étais à Marseille il y a quelques jours, dans le quartier nord de Marseille. Ils organisent ces jours-ci un grand débat pour les jeunes des quartiers nord de Marseille. Donc on voit que ça fonctionne. Et mercredi, je vais réunir au ministère, mercredi matin, ces réseaux associatifs pour une première remontée de ce qu'ils auront perçu dans ces débats. Mais on voit qu'il faut un cadre spécifique. Et on voit que c'est des thématiques qui remontent, à la fois des thématiques qui concernent directement le quotidien des jeunes, la question de la mobilité, la question du pouvoir d'achat, mais aussi des thématiques comme par exemple l'environnement, la protection de la planète qui concernent tout le monde.
L'idée, Gabriel Attal, c'est que ces propositions qui vont émerger, elles soient ensuite reprises dans un texte de loi, dans un référendum, en tout cas qu'elles trouvent traduction.
L'idée, c'est que à l'issue du grand débat national, il y aura une réponse politique. Le président de la République va s'exprimer, va proposer une réponse politique. La forme que ça prendra,
par exemple,
projet de loi, référendum, moi je peux pas la dire aujourd'hui puisque ça dépendra des propositions.
Mais pas sur
qui
la forme, mais sur le fond, vous seriez favorable à quel type de proposition?
Alors moi déjà, je fais attention tant que le grand débat n'est pas terminé.
Non, mais qu'est-ce
pas
que vous avez repéré d'ores et déjà puisque vous réunissez les associations mercredi?
Je vais les réunir mercredi. Moi d'ores et déjà, avec les débats auxquels j'ai assisté à plus d'une dizaine, une quinzaine de débats consacré aux jeunes, on voit bien qu'il y a des enjeux très forts, notamment sur la question de la mobilité. Comment est-ce qu'on peut se déplacer plus facilement, notamment pour aller chercher un apprentissage, chercher un emploi? Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui en France.
Ça, c'est le permis de conduire. Vous avez déjà dit effectivement que vous alliez faire une proposition pour rendre ce permis de conduire moins cher.
On travaille sur cette question-là, effectivement, dans la lignée de ce qu'a dit le président de la République il y a quelques semaines. Il a dit qu'il souhaitait que le permis de conduire soit accessible plus facilement pour les jeunes. Parce qu'encore une fois, j'étais dans les Ardennes, j'ai discuté avec des jeunes, ils m'ont dit on a trouvé un apprentissage, on ne peut pas aller le chercher parce qu'on n'a pas de moyens de locomotion.
Vous avez d'autres propositions en tête ?
Il y a la question du pouvoir d'achat. Moi, j'y travaille aussi. Est-ce que sur le revenu universel d'activité qui a été annoncé dans le cadre du plan pauvreté, est-ce qu'il faut l'ouvrir aux jeunes, permettre aux jeunes d'avoir cette allocation unique? Parce que le grand drame chez les jeunes, c'est qu'il y a beaucoup de non-recours. C'est qu'il y a des droits qui existent et qu'il y a beaucoup de jeunes qui n'y ont pas recours. Il y a la garantie jeune, il y a d'autres aides, d'autres prestations qui existent. Est-ce qu'il faut ouvrir le revenu universel d'activité aux jeunes? Est-ce qu'il faut permettre dans le cadre de ce revenu universel d'activité ouvert aux jeunes, à des jeunes, par exemple, qui travaillent, par exemple des étudiants qui travaillent, qui peuvent pas forcément prétendre aujourd'hui à la prime d'activité parce qu'il faut travailler à 80%.
Pour ce soit un complément de salaire en quelque sorte.
Est-ce qu'on permet pour ces jeunes-là d'abaisser un peu le seuil pour permettre d'avoir à ces jeunes un petit complément de pouvoir d'achat qui les oblige pas à travailler à 80% parce qu'on sait l'impact que ça a sur des études? Ça fait partie des sujets que je regarde.
Qu'on comprenne bien, hein, qu'on soit très clair, vous souhaitez effectivement soit mettre en œuvre, au moins explorer, mais mettre en œuvre si possible, un revenu universel d'activité pour les jeunes, 18-25 ans, même s'ils ne travaillent pas, même s'ils n'ont pas de formation. Et deuxièmement, vous souhaitez que la prime d'activité soit étendue aux étudiants, même s'ils ne bossent pas à 80% de leur temps.
C'est les sujets sur lesquels je travaille. Moi, je suis pas là pour faire des annonces.
Encore une fois, je reçois les jeunes mercredi. Vous avez évalué le coût de ces deux mesures?
On est en train d'y travailler. J'y travaille. Vous me demandez quelles sont les pistes que je vois aujourd'hui. Par définition, on n'a pas aujourd'hui à faire des annonces. D'abord parce que c'est le président de la République qui les fera. Et ensuite parce que le grand débat se poursuit tout au long de ce mois. C'est les sujets sur lesquels je travaille.
Est-ce qu'il faut que le grand débat constitue un tournant social pour le quinquennat? Hugues Ranson, vice-président de l'Assemblée, qui est votre ami, hein, a plaidé en ce sens la semaine dernière dans Le Monde, un grand tournant social et écologique.
Moi, je pense que les slogans, c'est un peu facile. On n'a pas entendu les Gilets jaunes descendre dans la rue ou les Français se mobiliser en disant « on veut un tournant social ». Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Parler de tournant social...
Non, mais on veut moins d'impôts, ça on l'a entendu.
Parler de tournant social, c'est mal connaître d'abord l'action qui est menée par la majorité depuis 2 ans. Tout ce qu'on fait sur l'éducation en dédoublant les classes dans les quartiers difficiles, en mettant une aide aux devoirs gratuite de 4 heures par semaine pour tous les collégiens, parce que c'est une vraie inégalité l'aide aux devoirs, en faisant un petit déjeuner gratuit en maternelle pour les enfants qui viennent de quartiers populaires, de milieux populaires, parce que là aussi c'est une vraie inégalité. Toute cette action-là, c'est une action sociale. Ce qu'on fait sur l'accès à la formation professionnelle.
Donc il faut continuer sur le même cap en fait.
Mais ce que je veux dire, c'est que parler de tournant social sans dire ce qu'il y a derrière, ça relève du slogan. Et pour moi, les Français n'attendent pas des slogans, ils attendent qu'on agisse. On a bien vu qu'il y a des enjeux sur le pouvoir d'achat, il y a une première réponse de 10 milliards d'euros. Je peux vous dire que ceux qui ne bénéficiaient pas de la prime d'activité, qui en bénéficient depuis février, parfois de 300-400 euros, ils voient très bien ce que ça veut dire.
On voit aussi politique. À travers effectivement cette mobilisation des gilets jaunes, ce grand débat, c'est que les Français ont envie de s'exprimer. Est-ce qu'il faut que le dialogue se poursuive au-delà du grand débat? Écoutez ce qu'en disait hier Didier Guillaume, le ministre de l'Agriculture, dans l'émission Le Grand Rendez-vous.
Les parlementaires devront plus prendre en compte la position de leur population. Ça peut pas être fait sur tous les textes, il y a des textes qui passent très très vite, mais sur les grands enjeux de société, sur les grands enjeux sociaux, de santé peut-être, ou je ne sais trop, sur les institutions, on peut demander à des citoyens de faire remonter des amendements, que ces amendements puissent être arbitrés, délibérés à l'Assemblée nationale.
Oui, les Français doivent participer de manière plus active demain au processus législatif.
Moi, je pense effectivement qu'avec ce grand débat, on a trouvé un cadre, un espace démocratique inédit et que les Français s'en emparent. On est à plus de 2 millions de visiteurs uniques sur la plateforme.
Il faut que
10 000 réunions. Il faut qu'on arrive à trouver un cadre institutionnel qui permet en permanence de poursuivre ce débat et ce lien et cette participation des Français.
Et pas seulement au moment des élections. Gabriel Attal, notre invité ce matin. D'autres questions pour vous juste après. L'info, il est 9h-10. Thomas Benesch.
Malgré les protestations de la rue de ces derniers jours, Abdelaziz Bouteflika, président sortant d'Algérie, sera bien candidat à un cinquième mandat le 18 avril prochain. Il promet toutefois de ne pas aller au bout de son mandat et d'organiser une élection présidentielle partielle à laquelle, cette fois, il ne se présentera pas. Un bureau exécutif de La République En Marche examinera ce soir le cas Aurélien Taché. Le député marcheur a fait un parallèle entre port du voile par une jeune fille musulmane et serre-tête portée par une jeune fille de famille catholique. Des propos polémiques tenus samedi soir dans l'émission C'est l'Hebdo sur France 5. Le chef d'État autoproclamé du Venezuela, Juan Guaido, doit rentrer aujourd'hui dans son pays. Il appelle ses partisans à descendre dans la rue. Il met en garde le président officiel contre toute tentative d'enlèvement. Un but de Balotelli célébré par le joueur lui-même sur les réseaux sociaux, un autre signé Thauvin sur pénalty. Victoire de Marseille hier soir lors de la 27e journée de Ligue 1 de football. Succès 2-0 sur Saint-Etienne.
France Info.
Le secrétaire d'État chargé de la jeunesse, Gabriel Attal, notre invité ce matin sur France Info, Jean-Jérôme Bertolus. On parle du SNU, le Service National Universel.
Absolument, dont vous allez lancer l'expérimentation aujourd'hui. Objectif, recruter 2000 jeunes dans 13 départements. C'est d'abord une expérimentation, ce Service National Universel qui va comporter deux fois 15 jours, en quelque sorte. D'abord 15 jours en internat, puis ensuite 15 jours de mission d'intérêt général. C'est quoi, finalement? C'est un espèce de rite de passage vers l'âge adulte. C'est quoi exactement ce service national universel?
C'est effectivement un rite de passage républicain qui a trois objectifs. Le premier objectif, c'est de créer un moment de creuset républicain, de brassage social, de mixité territoriale.
Mais en 15 jours, on va avoir le temps de rencontrer son voisin ou des gens qui n'habitent pas son quartier.
Dans un pays où on a vu qu'il y a des fractures qui sont très fortes et que ces fractures, elles sont sans doute encore plus importantes chez les jeunes aujourd'hui. Il faut ce creuset républicain et ce moment de mixité territoriale et sociale. Le deuxième objectif, c'est de former les jeunes dans une société où les risques ont évolué depuis l'époque du service militaire et les former à des enjeux comme les catastrophes naturelles, comment on réagit, comment on met en place un poste de secours, comment on organise la réponse auprès des sinistrés s'il se passe quelque chose, comment on réagit face à un attentat terroriste, comment est-ce qu'on se protège, comment on maîtrise parfaitement les gestes de premier secours. On est très en retard en France sur la maîtrise par la population des gestes de premier secours. Et puis le troisième objectif, c'est de lever les freins à l'engagement. S'engager, c'est donner ce qu'on a de plus précieux, c'est-à-dire son temps, au service d'une cause d'intérêt général. Et s'engager, c'est bon pour l'intérêt général, mais c'est aussi bon pour celui ou celle qui s'engage, parce qu'on fait des découvertes, parce qu'on s'oriente, on s'insère. Et beaucoup de jeunes ne s'engagent pas parce qu'ils ne voient pas l'utilité qu'ils ont à apporter au pays. Et le service va leur montrer.
Comment faire, Gabriel Attal, pour que les jeunes qui seront volontaires soient représentatifs de la jeunesse française, pour qu'on reste pas dans l'entre-soi?
C'est un vrai sujet, c'est pour ça que j'ai demandé avec Jean-Michel Blanquer au recteur, au préfet, de cartographier la jeunesse de leur département. Il y a 13 départements pilotes. Quelle est la part de jeunes scolarisés par rapport aux jeunes apprentis, par rapport aux jeunes décrocheurs, les jeunes en situation de handicap? Quelles sont les origines de catégories socio-professionnelles? Cette cartographie, elle a été faite et l'objectif qu'on leur a fixé...
Quoi, des quotas de jeunes?
L'objectif qu'on leur a fixé, c'est d'avoir des cohortes de jeunes appelés pour juin qui sont représentatifs de la jeunesse de chacun de leurs départements.
Gabriel Attal, vous êtes quand vous êtes né, le service militaire n'existait déjà plus, je crois.
Il existait encore, mais oui, je ne l'ai pas fait.
Voilà,
puisque il était supprimé avant que j'ai l'âge de le faire.
Aujourd'hui, vous lancez le service national universel. C'est important que les jeunes, dans le cadre de ce service national universel, fassent le salut au drapeau, chantent la Marseillaise chaque matin, revêtent un uniforme, alors soient encadrés par des militaires, alors même qu'il ne va rien y avoir de militaire dans leur formation.
Je vais vous dire... Pour moi, le sujet, c'est pas la suppression ou non du service militaire. Le service militaire, il a été supprimé et je pense que c'était une bonne décision. En revanche,
mais les symboles militaires,
beaucoup s'accordent sur le fait qu'il aurait dû être remplacé par quelque chose. Et c'est ça le sujet. Aujourd'hui, c'est de créer un moment, un service qui est adapté aux enjeux d'aujourd'hui. Et moi, je vais vous dire, pour discuter beaucoup avec les jeunes, je fais 2 ou 3 déplacements en province par semaine, dans des collèges, dans des lycées. La question des symboles républicains, la question du rite de passage, elle est très importante. Aussi parce qu'on a des générations, une jeunesse qui a été marquée par les attentats de 2015, qui aujourd'hui réaffirme cet attachement à notre pays, aux symboles républicains. Et donc, pour ce rite de passage de 1 mois, je pense que c'est légitime qu'on puisse
2022,
aller vers ça.
Vous souhaitez qu'effectivement tous les jeunes de 16 ans, jeunes hommes, jeunes filles, lycéens, chômeurs, hors formation, décrocheurs, intègrent le service national universel, 800 000 personnes, ça va coûter combien d'un mot?
Alors, le budget, il va dépendre de choix importants qu'on va faire à l'issue de la phase pilote de juin prochain. Vous avez rappelé que c'était une forme d'expérimentation parce qu'on va tester un certain nombre de choses sur le taux d'encadrement, sur l'organisation. Et les décisions qu'on prendra, elles auront un impact évidemment sur le coût.
Donc pas de chiffres
aujourd'hui. Ce que je veux dire, c'est que c'est un investissement. C'est un investissement parce que quand on fait un bilan de santé pour tous les jeunes, on détecte des pathologies qui sinon se seraient aggravées et qui auraient coûté cher à la sécurité sociale. Quand on prévient des décrochages, c'est aussi une économie. Un décrocheur, en moyenne, un jeune qui quitte l'école sans formation ni qualification, c'est 230 000 euros en moyenne d'accompagnement.
Donc vous nous dites,
moins il y aura de décrocheurs.
C'est un investissement aussi ce SNU. Dernière question, Gabriel Attal. Aurélien Taché, député La République En Marche, a fait un parallèle ce week-end entre le voile islamique et les serre-têtes portées par certaines jeunes filles catholiques qui réagissaient à la polémique la semaine dernière sur la commercialisation d'un hijab de running par la marque Decathlon. Depuis, il s'est excusé. Ses propos seront examinés par le bureau de La République En Marche ce soir. Il doit être sanctionné, Aurélien Taché.
Vous l'avez dit, c'était un parallèle extrêmement maladroit. Et Aurélien Taché s'est excusé. Il a publié un communiqué où il s'est excusé pour ses propos. Et à partir de là, pour moi, l'affaire est close dès lors qu'il s'est exprimé.
Il ne prend pas la juste mesure de ce qu'est le hijab, selon vous ?
Je pense qu'il l'a dit. Il s'est excusé. Il a considéré que ce parallèle était maladroit. Je pense qu'il faut entendre ça et puis aller de l'avant. Moi, je ne suis pas pour la purge permanente, comme certains le souhaiteraient.
Gabriel Attal, secrétaire d'État chargé de la jeunesse. Merci d'avoir été notre invité ce matin. Excellente journée à tous.